7h43 sur France Culture. Un peu de mieux aujourd'hui à la RATP, mais pas de changement concernant la circulation des trains. La lutte contre la réforme des retraites continue. Il n'y aura pas eu de trêve en cette période de fête de fin d'année, alors que la date prévue de reprise des négociations, le 7 janvier, paraît si loin. Pour tenter de comprendre un peu mieux le moment que nous traversons, nous recevons ce matin Gérard Noiriel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être dans les matins de France Culture. Historien, directeur d'études à l'EHESS et auteur d'une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, paru et réédité d'ailleurs déjà chez Agon. On a beaucoup entendu pendant le week-end, Gérard Noiriel, que la grève avait dépassé en longueur celle de 1995, également contre un projet de réforme des retraites. Au-delà de ça, et avec votre regard d'historien attaché à la fonction sociale de l'histoire, vous y voyez déjà un grand mouvement de grève, un mouvement qui fera date?
Je crois que c'est évident, c'est un mouvement important parce qu'il touche un enjeu fondamental qui est aussi un petit peu lié à la construction historique de la solidarité sociale en France, notamment depuis l'après-guerre, la libération. Donc il y a des enjeux essentiels qui se définissent aujourd'hui. Donc je pense que c'est un mouvement très important qui s'inscrit dans une longue histoire, puisque ce que j'ai montré notamment dans ce livre, c'est que l'une des spécificités de l'histoire française, c'était justement cette capacité de se mobiliser, contre des mesures centralisées d'État. Ce qui explique à la fois cette espèce de contradiction qu'on voit en France. Un syndicalisme faible, si on compare par rapport à d'autres pays au niveau numérique, mais une capacité d'intervention politique relativement forte. C'est aussi lié ça à la centralité de la vie politique française, le poids de Paris et de tout ce qui se passe dans la capitale.
Une autre caractéristique, dites-vous, des mouvements importants dans l'histoire de France, c'est le fait de prendre par surprise les dominants ou les gouvernements. Là, c'était pas vraiment le cas. On a vu venir, contrairement à ce qui s'est passé l'an dernier avec les Gilets jaunes, on va y revenir dans cet entretien. Et là, on a vu venir les choses, clairement, Gérard Noiriel.
Oui, voir venir les choses, faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire. Effectivement, je crois qu'il y avait, il y a toujours une stratégie, c'est normal, dans les conflits sociaux entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir. Donc, il y avait effectivement une anticipation des réactions, mais peut-être pas une anticipation de l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire, il y avait un peu la stratégie de division, je dirais, de dire, il y a des privilégiés, sont les cheminots, enfin, qui partent en retraite très tôt par rapport à d'autres, etc. Et donc, quand, historiquement, on le voit aussi, quand les gens qui sont au pouvoir arrivent à diviser les gens qui sont concernés, la mobilisation est plus faible, forcément, puisque il y a pas de solidarité, de convergence des luttes, comme on dit aujourd'hui. Or là, ce qui s'est produit, je dirais, c'est que dans les stratégies aussi de légitimation qui opposent les deux camps, on a vu que, les grévistes avaient réussi à faire passer le message que, même si, par exemple, les conducteurs des rames de métro ou de la SNCF sont au cœur du mouvement, parce que c'est eux qui jouent le rôle le plus important dans la grève en paralysant les transports, leur mouvement touchait aussi d'autres composantes et du coup, ça crée, y compris dans l'opinion publique, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Important, une solidarité qui s'explique aussi par le fait que d'autres questions que simplement celles des retraites sont posées. Il y a dans toute une série de corporations aujourd'hui des inquiétudes sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'offensive libérale à laquelle on est confronté aujourd'hui.
Donc et ça dépasse finalement simple cadre de la réforme des retraites.
Si vous prenez l'exemple des journalistes de Radio France, si vous prenez l'exemple des chercheurs de l'université, il y a un plan, vous savez, de restructuration qui vise à transformer complètement le profil même des chercheurs en sciences sociales pour nous aligner sur des standards anglo-américains, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails.
Ce qui fait que vous êtes plus unis peut-être que dans les années précédentes par rapport à ces offensives libérales, parce que vous êtes vraiment touchés. Concernant Radio France, juste une précision, c'est pas une question spécifique sur les retraites, c'est un plan de départ volontaire et une mesure d'économie qui est...
C'est pour dire que ça va au-delà de simplement de la question stricte des retraites, ça touche toute une série d'enjeux, de remise en cause des statuts, de diminution des personnels, sociale, etc.
Et vous voyez un réveil un peu général dans la population qui pourrait se produire alors contre cette politique libérale qui est menée depuis
la question, voilà, là aussi, c'est, je dirais, en tant que chercheur en sciences sociales, c'est le problème de la définition des mots. Le mot réveil, ça peut être, le réveil, il peut être individuel, c'est-à-dire les gens peuvent dire il y en a marre, etc., mais ne pas se traduire dans une action collective. Toute la question, c'est comment on réussit à fédérer des gens, à les organiser, à les faire, à rendre visibles les souffrances. Ça, c'est un enjeu majeur. Des souffrances qui n'arrivent pas à accéder à une visibilité publique, si vous voulez, ben, pour la plupart des gens, c'est comme, sur ceux qui les subissent, évidemment, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est toute cette question, vous voyez, aussi de la mobilisation qui est posée, donc du passage du privé au public, qui est extrêmement important, enfin, notamment pour moi en tant que socio-historien, c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler aussi, parce qu'on le trouve à toutes les époques, hein.
Le projet de loi de réforme des retraites est d'inspiration libérale, vous venez de le dire, Gérard Noiriel. Précisément, comment est-ce que la contestation contre ce projet de loi s'intègre dans la longue histoire sociale française, la longue histoire de la lutte des classes?
Oui, oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser cette expression, ce n'est pas un gros mot. Évidemment, les formes même de la lutte des classes évoluent selon les époques, mais les divergences ou les contradictions d'intérêts, je crois que plus personne ne peut les nier. C'est un fait objectif. Et effectivement, dans le cas français, c'est ce que j'ai montré en très longue durée. C'est pour ça que mon histoire populaire de la France, je la commence donc à l'époque de Jeanne d'Arc, hein, donc au XVe siècle, c'est au moment où se met en place l'État royal. Mais c'est une des grandes caractéristiques françaises, c'est la longue durée de cet État, par le fait qu'il n'a jamais été remis finalement en question, même par la Révolution française, qui a changé de forme, évidemment. Mmh. On est passé d'un État de sujet, où les individus étaient des sujets du roi, ensuite ils sont devenus des citoyens, ensuite ils sont devenus des citoyens qui avaient des droits sociaux, etc. Donc il y a toute une histoire, et cette histoire, on ne peut pas la comprendre si on ne voit pas qu'elle est aussi le produit des luttes sociales. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui, dans leur grande générosité, ont accordé des droits aux gens. Ça n'existe pas. C'est toujours des rapports de force. C'est ce qu'on constate dans l'histoire. Et que souvent, même des luttes sociales qui sont perdantes, apporte des transformations. Parce que les élites découvrent parfois simplement que grâce à la lutte, l'existence de souffrances sociales...
Qu'ils voulaient nier
ou qu'ils ne connaissaient même pas parce qu'ils vivaient dans d'autres milieux.
Vous expliquez également dans cette histoire populaire de la France, Gérard Noiriel, que l'idée de nation s'est aussi construite du côté des dominés par l'impôt, à cause de l'impôt ou grâce à l'impôt.
Oui, c'est ça. C'est la question de l'impôt est tout à fait fondamentale. On l'a retrouvée effectivement avec les gilets jaunes, mais finalement elle se pose aussi avec les retraites. C'est la question de la redistribution de l'argent public par le fait. Parce que le lien social, si vous voulez, c'est une des questions que je me suis posée. Ben, qu'est-ce qui a lié les individus qu'on appelle français aujourd'hui, eh bien, je crois que ce sont des questions aussi matérielles, économiques, et notamment l'impôt est tout à fait déterminant, parce que c'est un lien, qu'on le veuille ou non. Et ce lien, eh bien, il va créer aussi de la solidarité, et on voit dès l'Ancien Régime que les luttes populaires les plus importantes sont des luttes contre les inégalités face à l'impôt.
On avait des syndicats en piteux état après l'année de contestation des Gilets jaunes. On y reviendra tout à l'heure, Gérard Noiriel. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui suffisamment fort pour assumer un rapport de force dont on sait qu'il est évidemment important dans le cadre d'une contestation sociale, en les sentant revigorés? Quel est votre point de vue d'historien sur la position syndicale aujourd'hui?
Ils sont revigorés aujourd'hui dans l'espace public, étant donné le rôle important au niveau sociologique, au niveau des forces. Je ne suis pas sûr que ça transforme fondamentalement les choses. Il y a peut-être un certain nombre de gens qui vont réaliser que oui, ils ont intérêt à se syndiquer s'ils veulent défendre leurs droits, sans doute. Il peut y avoir aussi de l'autre côté des gens qui disent on en a marre des syndicats, c'est à cause de...
Mais ça, c'était les Gilets jaunes, par exemple.
Oui, voilà, il y a aussi cette dimension-là. Donc je crois que peut-être ce mouvement-là montre, par rapport à ce peut-être on avait trop dit au moment des Gilets jaunes que on a... moi-même, je l'ai écrit d'ailleurs. Je continue à le penser, hein, malgré tout, il faudrait entrer dans les détails, mais que on est entré quand même dans une nouvelle époque où les formes de mouvement que les Gilets jaunes ont pu inaugurer dans le cas français, avec des formes d'intervention totalement inédites, qui ont pris de court aussi le pouvoir, qui nous ont surpris, je pense que ça n'a pas été rayé de la carte parce qu'on a ce mouvement autour des retraites. La question peut-être qui est posée, et qui avait été déjà posée à l'époque des Gilets jaunes, beaucoup de gens la regrettaient d'ailleurs, c'est l'absence de lien entre ce mouvement-là, qui refusait toute forme de récupération, qui était méfiant à l'égard des syndicats, et puis un syndicalisme qui est le produit aussi d'une histoire de notre démocratie, etc. Peut-être que là, il y a avec ce mouvement-là, des passerelles plus fortes qui peuvent se construire.
Il y a eu une tentative encore samedi dernier de mobilisation et de manifestation en commun. Ça n'a pas vraiment fonctionné, Gérard Noyer.
Non, parce que je crois aussi que des transformations sociales, elles se font dans la durée. On vit dans un monde aujourd'hui où les médias nous mettent dans une vision des choses extrêmement rapide, où tous les jours l'actualité change, etc. Mais dans la réalité sociale, il faut du temps. Il faut familiariser les individus les uns avec les autres. Il faut partager des expériences. Il faut, vous voyez. Donc tout ça, je pense que même on le voit à différents niveaux, que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a des connexions qui sont faites, des liens, des discussions, etc., des préjugés qui peuvent du coup disparaître. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc faut pas non plus uniquement juger sur l'instant, mais voir ça dans la durée.
On a un problème de représentation peut-être, on a un problème de corps intermédiaires également en France. Oui. Et c'est pas si récent que ça, hein. C'est ce que vous expliquez également dans votre histoire populaire de la France.
Oui, oui. Gérard Noyer. Oui, oui, c'est le grand... Vous savez, le père de la sociologie française, Émile Durkheim, le pointait déjà à la fin du 19e siècle, en disant le drame de la France, c'est l'absence ou la faiblesse des corps intermédiaires. Et il attribuait ça à la Révolution française. La Révolution française a éradiqué des groupes intermédiaires qui existent encore aujourd'hui dans d'autres pays, mais que ce soit les corporations ou les structures religieuses, par exemple, qui jouent un rôle très important sous l'Ancien Régime. Et du coup, dit Durkheim, le citoyen s'est trouvé en face à face avec l'État central. Et effectivement, c'est une des raisons qui explique la faiblesse du syndicalisme. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons importantes. Et donc, on a ce déficit de groupements intermédiaires en France qui explique aussi l'hyper-politisation à chaque fois des questions. C'est-à-dire, elle ne se règle pas, comme ça a été montré pour l'Allemagne, par exemple, où le rôle dans l'entreprise, par exemple, les négociations d'entreprise sont beaucoup plus importantes, où on arrive parfois à dénouer les conflits au niveau de l'entreprise, donc au niveau plus local, au niveau plus proche des individus, alors qu'en France, la propension, c'est de les régler au niveau national. Et ça, c'est surtout depuis le front populaire.
C'était une volonté de gauche aussi de relancer cette démocratie sociale, c'était un des projets de François Hollande, ça a pas fonctionné.
Non, y a une longue histoire de gens qui ont contester cette centralisation. Ça a été le thème de l'autogestion, par exemple, dans les années 70, la deuxième gauche, etc. Et effectivement, ça n'a jamais vraiment marché en France parce que là, on a des siècles de centralisation administrative depuis l'Ancien Régime, depuis Louis XIV, la société de cour, etc., qu'on peut pas supprimer comme ça d'un coup de baguette magique.
On a parlé de solidarité, on y reviendra dans la grande histoire des mouvements sociaux. Gérard Noyer, vous expliquez qu'il existe deux autres éléments déterminants, la dignité et la justice, éléments que les gouvernements feraient mieux de ne jamais oublier. Là, on en est où? Problème de justice, probablement, en ce qui concerne la dignité.
Oui, oui, ça c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur cette histoire populaire de la France, c'est de voir la longue durée de cette question finalement de la dignité déjà. C'est-à-dire que les gens qui d'habitude sont complètement ignorés, dès qu'ils peuvent prendre la parole, la plupart du temps c'est pour des raisons économiques, parce qu'ils sont à la limite de la survie et parfois pire, mais très vite, quand on leur ouvre une petite fenêtre d'expression, eh bien c'est la question de la dignité, de la reconnaissance, etc., qui est posée. Et ça, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit encore aujourd'hui, il suffit d'écouter les gens. Même pour cette question de retraite, c'est jamais... Faut éviter d'avoir une vision trop économiciste, je dirais, des choses. Il y a toujours ces questions aussi de la dignité des personnes qui est en jeu. Et puis la justice, ça c'est... aussi, bon, ça a été étudié par les historiens du mouvement ouvrier, la définition même de la justice, c'est un enjeu de lutte des classes aussi. Tout le monde n'a pas la même conception de la justice, et là on le voit bien, et je pense que c'est un problème qui risque encore de s'accentuer au mois de janvier, après la trêve, enfin la pseudo-trêve, enfin, c'est pas vraiment une...
La non-trêve, finalement.
La non-trêve, appelée, voilà, que certains... La trêve que certains appelaient de leur vœu, etc. Mais je dirais que c'est le fait que dans cette... légitimation du projet de loi sur les retraites, qui était la question universelle, de l'universalisme, hein, de la retraite à point pour tout le monde. On s'aperçoit que c'est, déjà, il y a des concessions qui sont faites, en priorité pour les forces de l'ordre, ce qui est quand même aussi un peu problématique. Et, du coup, ben, les gens qui ne sont pas, pour lesquels on ne fait pas de concessions, ressentent d'autant plus fortement un sentiment d'injustice. voyez, parce qu'on se dit, bah alors on nous prend pour des imbéciles, quoi. On nous dit que c'est un système universel, et puis certaines catégories vont obtenir donc des concessions que nous on n'obtient pas. Alors là, on voit que ce sentiment d'injustice qui traverse l'histoire est accentué. Il y a certaines décisions du pouvoir politique qui peuvent du coup accentuer et pousser au paroxysme ce sentiment d'injustice.
Face à ça, une grande solidarité s'est mise en branle depuis le début du mouvement. On parle de caisses de grève, oui, qui sont assez largement abondées. Oui. La population soutient visiblement encore ce mouvement de manière assez majoritaire, et, oui, malgré tout un tas de messages qui sont passés encore, hein, sur le privilège dont oui, bénéficieraient les régimes spéciaux, les bénéficiaires en tout cas de régimes spéciaux. Cette solidarité, comment vous la voyez à l'échelle de l'histoire, Gérard?
Oui, alors d'une part, il faut faire attention, aujourd'hui on est dans un monde où les gens ont tous les yeux rivés sur les sondages, voir ce qu'en pense l'opinion, etc. Mais si on prend l'histoire des mouvements sociaux, vous n'auriez jamais eu, même en 36, faut pas croire que la majorité des Français soutenaient les grèves. Hein, on oublie aussi que cette notion de majorité, de consentement de majoritaire, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire des luttes sociales. Les luttes sociales sont toujours menées par des minorités agissantes qui souvent agissent pour le bien commun. Et des gens même qui au départ pouvaient être hostiles au mouvement de lutte, parfois ils sont bien contents de profiter des avantages qui ont été concédés grâce à ceux qui agissent. Donc il y a cette notion-là, et effectivement dans les luttes importante, eh bien, il y a une solidarité qui peut s'élargir, comme on le voit aujourd'hui. Alors moi, j'ai étudié dans mes travaux aussi dans le mouvement ouvrier, dans les luttes ouvrières, notamment dans la sidérurgie, dans les mines de fer, les grandes grèves. Étaient évidemment localisées, mais elles bénéficiaient, c'était pas des caisses de grève, c'était ce qu'on appelait les soupes communistes, par exemple. Hein. C'était donc la communauté locale, la cité, les villageois autour. Il y avait une sorte de solidarité qui liait des paysans, des petits commerçants, des ouvriers, et qui permettait parfois aux grèves de durer très longtemps. On a dans l'histoire du mouvement ouvrier des grèves qui pouvaient durer parfois un an, parce qu'il n'y avait pas l'enchaînement au salariat non plus. Pas le crédit. Il y avait des possibilités.
On pouvait retourner au champ.
Travailler au champ. Ouais. C'est pour ça que souvent les grèves, c'était au printemps, vous voyez. Il y avait une stratégie de la grève qui consistait à la faire plutôt au printemps, parce qu'on disait, là, je pourrais aider le copain ou la famille qui a un champ. Et puis, vous voyez, il y avait des manières de bloquer. Et c'est souvent très efficace.
Aujourd'hui, elles se font plus à l'automne, les grèves, à l'hiver?
Bah, aujourd'hui, c'est l'hiver, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait le 13e mois pour les cheminots. Et donc, du coup, ça leur permettait ils sacrifient quand même leur 13e mois, hein, je veux dire. C'est pas neutre, hein, je dirais. Mais malgré tout, voilà, il y a toujours des stratégies dans un mouvement. Dans un mouvement de lutte, il y a toujours une intelligence de la lutte aussi. Ça, c'est très très important à souligner.
Gérard Noiriel, vous restez avec nous. Vous êtes l'invité des matins de France Culture. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Il est 8h.
France Culture, les matins. Benoît Bouscarel.
Nous sommes en compagnie de Gérard Noiriel ce matin, historien, directeur d'études à l'EHESS, pour tenter de comprendre avec lui ce mouvement de contestation contre le projet de réforme des retraites qui n'en finit pas et en face duquel le gouvernement fait pour l'instant la sourde oreille tout en lâchant du lest. Discrètement, on le disait tout à l'heure, vous l'évoquiez, Gérard Noiriel, on n'est déjà plus du tout dans un régime de retraite universelle puisque tout un tas d'exonérations, d'exemptions ou de cas particuliers ont déjà été autorisés par le gouvernement dans le cadre d'une négociation. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette, vous parliez tout à l'heure de volonté centralisatrice, de mesures centralisées concernant ce régime universel. Qu'est-ce qu'il signifie cette volonté là de faire de l'universel à tout prix?
Oui, ben ça c'est ça s'inscrit dans une longue tradition française. Hein, c'est la définition de l'universel. Vous savez que depuis 1848 au moins, on parle de suffrage universel. Et à l'époque, c'était pour désigner déjà un suffrage qui n'était que masculin, et puis national. Donc il y a eu cette tendance très longue, qui s'estompe un peu aujourd'hui, mais de confondre en France le national et l'universel. Et ça s'inscrit dans une histoire multiséculaire où on a eu une construction d'un État extrêmement centralisé, avec un poids de la capitale extrêmement fort depuis Louis XIV, puis la société de cour, et donc une force assimilatrice aussi qui est depuis le centre parisien, qui a été renforcé par la Troisième République, et donc on vit encore dans ce régime-là aujourd'hui. Donc c'est ce qui explique que voilà, cette notion d'universel, d'une part, elle est très légitime. On voit d'ailleurs dans le mouvement actuel un combat de légitimité entre l'opposition, entre deux conceptions de l'universalité, puisque les syndicats disent non, c'est une rupture avec les principes universels qui étaient ceux de la résistance, qui avaient été appliqués justement après, juste après la guerre, et à l'inverse, le gouvernement qui dit si, si, nous sommes fidèles à ces principes-là, puisque notre régime de retraite à points est lui-même universel. Donc c'est des enjeux de lutte et de définition qui sont importants parce qu'ils génèrent aussi de la croyance dans l'opinion. C'est-à-dire que comme c'est légitime de parler d'universalisme à ce niveau-là, eh bien voilà, ça reste important en France, beaucoup plus que dans d'autres pays.
Le pourrissement n'a jamais été une bonne stratégie dans la longue histoire des luttes. C'est ce qui semble être pour l'instant la stratégie du gouvernement, Gérard Noriel.
Oui, alors la notion de pourrissement elle-même, vous voyez, c'est un terme très très fort, enfin très très polémique hein, finalement. C'est on voit dans l'histoire évidemment d'un très grand nombre de luttes sociales où le pouvoir a refusé de céder. Donc on peut appeler ça aussi du pourrissement et où finalement les syndicats, les forces qui étaient engagées dans la lutte ont fini par voilà, s'arrêter, par se décourager et en gardant pour beaucoup, pour ceux qui avaient été engagés dans la lutte et qui en avaient souffert, une rancœur. Hein, on voit beaucoup de souffrance à l'issue des luttes sociales. Hein, c'est un point, je crois, qu'on néglige souvent. Donc, alors effectivement, après, d'un point de vue politique, est-ce que un gouvernement a intérêt à jouer sur le pourrissement? Évidemment, plus la lutte est populaire, plus elle est vaste, plus elle implique beaucoup de monde, et bien plus cette logique du pourrissement finalement laisse des traces qui peuvent se traduire après dans une démocratie sur le plan électoral. C'est effectivement la principale crainte que peut avoir le pouvoir aujourd'hui, c'est que bien finalement ça se traduise dans les urnes lorsque les échéances municipales ou après les présidentielles vont arriver.
Ouais, mais justement, tout à l'heure, vous parliez de légitimité. Le gouvernement légitime son action en disant, on a été élu avec ce programme, on l'applique. On sent que c'est déjà plus opérant, hein, ce genre d'argument, Gérard Noriel.
Oui, parce que bon, quand on décortique le programme, on voit que c'était pas tout à fait ce qui a été proposé ensuite. Donc là, il y a toute une logique, je dirais, de justification, mais effectivement, puis après, il y a l'argument qui est de dire, mais par qui le président actuel a-t-il été élu, puisqu'on sait que ça, c'est le nombre de Français finalement qui ont contribué à sa victoire, si on prend le premier tour, parce que le deuxième tour c'était évidemment un rempart contre l'extrême droite, c'était ça l'enjeu, donc on voit finalement que c'est pas une majorité de Français qui ont soutenu ce programme, donc là il y a aussi, je dirais, un enjeu au niveau de la définition même de ce que c'est que la démocratie, puisque finalement c'est pas la majorité, je dirais, numérique des Français qui ont soutenu même dès le départ ce programme-là. Donc là, il y a aussi des enjeux de lutte que l'historien, évidemment, ne doit pas se prononcer pour l'un ou pour l'autre, mais il doit analyser globalement.
Ça va nous amener à parler de citoyenneté dans un instant. Oui. D'abord, un mot simplement sur le geste d'Emmanuel Macron là pendant les vacances, annonçant qu'il renonçait à sa retraite de président de la République. Comment est-ce que vous l'interprétez?
Je l'interprète aussi dans la même logique symbolique, mais en même temps ça prouve bien qu'il y a une sensibilité très forte aujourd'hui, peut-être plus forte, bien que ça ait toujours existé, toujours dans les classes populaires, quand vous voyez l'un des arguments, c'est de dire mais lui, hein, c'est toujours dire lui, il nous dit de faire ça à nous. Hein, il nous dit que nous, faut qu'on renonce à notre retraite, mais lui, et il y a toujours, ça peut nourrir aussi différents points de vue, hein. Ça peut nourrir un point de vue de mobilisation syndicale fort, etc. Mais ça peut aussi nourrir le populisme. Vous voyez, en disant, nous, on est des victimes, c'est une logique très très forte qu'on retrouve dans tous les domaines, l'opposition entre nous victimes et eux les nantis. Vous voyez, donc, on voit bien qu'il y a une nécessité pour les gouvernants d'occuper aussi ce terrain-là. Et donc, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, comme Hollande l'avait fait déjà aussi. Hein. Enfin, c'est pas forcément nouveau. C'est-à-dire de dire, ben, nous aussi, on s'implique dans les réformes qu'on veut adopter. Donc voilà. Donc je décide moi-même de supprimer des avantages. Ce qui est toujours, je veux dire, combien de Français sont prêts à renoncer à des avantages qu'ils ont? Il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est quelque chose de positif, d'un exemple qui est donné. Bon, évidemment. Par ailleurs, les autres vont dire, oui, s'il renonce à cette retraite, c'est qu'il n'en a pas besoin.
C'est qu'il peut le faire, il n'en a pas besoin. Bon, enfin, ouais.
Donc, on entre là dans des polémiques qui relèvent toujours des luttes symboliques qui se mènent aujourd'hui par rapport à la légitimité de ce projet de loi.
La question de la citoyenneté, vous écrivez dans votre histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, Gérard Noiriel, qu'à chaque fois que le peuple s'est mobilisé massivement, il a remis en question la définition bourgeoise de la citoyenneté fondée sur la délégation de pouvoir.
Oui, alors ça a été particulièrement net dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. C'est cette question de la « on ne veut pas ». Plus qu'on parle à notre place, on veut intervenir directement, on voyait ressurgir un discours qui est très ancien en France, qui date au moins, on pourrait même trouver des antécédents, à la Révolution française, où effectivement, eh bien, la Révolution française, qu'est-ce que c'est? C'est une lutte, une forme de la lutte des classes qui oppose un pouvoir qui était contrôlé par l'aristocratie, la noblesse, qui justifiait son pouvoir au nom de ses qualités supérieures par rapport au peuple, hein. Et puis la bourgeoisie qui était à la tête du tiers-état, qui met en avant le principe de la compétence. Donc le principe de la compétence fait que dès la Révolution française, quand vous regardez la composition même des représentants du tiers-état, ils sont quasiment tous issus des classes cultivées, on pourrait dire, de l'époque, hein, évidemment. Et les paysans, qui étaient largement majoritaires dans la population, les artisans, les ouvriers, etc., sont pratiquement non représentés. Ça va être un des arguments essentiels des sans-culottes, hein, à partir de 1792, qui disent bah, « c'est nous qui avons pris la Bastille, c'est nous qui prenons les coups, c'est nous qui nous faisons assassiner ». Et puis, quand il s'agit de diriger l'État, bien, on nous met de côté parce qu'il y a des gens qui vont parler à notre place. Ça, ce principe de conflit dans la définition même de ce que c'est que la citoyenneté éclate dès la Révolution. Ça explique aussi la radicalisation de la Révolution française jusqu'à 1794. Et puis, ça va ressurgir. Alors après, bon, l'élimination du Comité de salut public, de Robespierre, etc., il y a un retour du pouvoir, donc de la bourgeoisie, et donc du principe de compétence qui s'impose. Mais ensuite, eh bien, par exemple, en 1848, la Révolution de 48, on voit à nouveau ressurgir ce principe d'une définition populaire de citoyenneté. On le retrouve sur la Commune de Paris. On va fêter, célébrer bientôt le 150e anniversaire. Donc, je pense qu'on va en reparler aussi de cette conception populaire de la citoyenneté. La démocratie directe, on pourrait dire. Et puis, voilà, on a ces questions-là qui ressurgissent, alors qui sont moins présentes dans le mouvement actuel des retraites, parce que, voilà, la focalisation est sur autre chose, mais qui restent, malgré tout, latentes, parce qu'elles ont impacté aussi le mouvement ouvrier.
Voilà. Qu'a changé le mouvement des Gilets jaunes dans... Alors, on va faire de l'histoire, là, beaucoup plus récente, finalement, Gérard Noiriel, ce qui n'est pas aisé, forcément, mais... que, selon vous, ont changé les Gilets jaunes sur l'histoire des luttes sociales, et qu'est-ce qu'on aperçoit dès aujourd'hui là sur cette contestation autour de la retraite?
J'avais pu observer, j'ai fait beaucoup de débats avec les syndicats, avec des gens qui étaient partie prenante du mouvement des Gilets jaunes, et on voit bien que ça a ébranlé quand même le syndicalisme, c'est-à-dire cette critique qui pouvait en partie être injuste par rapport aux syndicats qui étaient présentés comme des nantis ou voilà par un certain nombre de gilets jaunes.
Dans la compromission.
Oui, dans la compromission, en disant bah ils nous représentent pas nous ou voilà ils sont eux-mêmes voilà c'est des gens qui ont des privilèges. Bon, eh bien ce discours-là, il touchait quand même des choses réelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le syndicalisme il représente pas l'ensemble des classes populaires, loin de là. Donc il est surtout centré, dans la fonction publique, dans le monde des entreprises. Alors comment représenter des gens qui sont hors entreprise, des gens qui sont des retraités, des gens qui sont des travailleurs indépendants, comme on dit, ubérisés. Enfin, on a toutes ces catégories-là qui se sont développées. Donc là, il y a une question aussi qui s'est posée donc sur, effectivement, la question de la citoyenneté à l'intérieur même du mouvement ouvrier. Et ça, c'est une question aussi qui avait été posée. Il y a une tradition française par rapport à ça, puisque le mouvement ouvrier français, Ce qui explique aussi d'ailleurs sa stratégie, par exemple le refus des formes de retraite par capitalisation, etc. Donc c'est ce mouvement anarcho-syndicaliste qui a été très fort en France dans les débuts du mouvement ouvrier, qui impactait même la CGT au point de départ, qui véhiculait quelque part une tradition aussi d'action directe. On l'appelait d'ailleurs le syndicalisme d'action directe, et qui était pour moi un héritage de cette lutte qui avait commencé avec donc les sans-culottes, etc., voyez, dans l'élite du mouvement ouvrier de l'époque, et en disant, nous, on ne veut pas déléguer notre pouvoir à des apparatchiks qui vont aller négocier dans les beaux palais ministériels, on veut être partie prenante là où on est. Ça a donné lieu à des mouvements qui pourraient être d'ailleurs inspirés le mouvement ouvrier d'aujourd'hui, les bourses du travail, voyez, le mouvement de coopérative, le mutualisme, des formes extrêmement riches qui se sont développées, qui ont eu tendance après à être marginalisées, notamment suite aux transformations du mouvement ouvrier avec l'émergence de la Troisième Internationale, du Parti communiste, etc., qui était une logique centralisatrice, et qui peut-être aujourd'hui est remise en cause. Et du coup, on le voit même dans les syndicats, notamment à la CGT, parce que bon, faudrait prendre après les différentes traditions syndicales, mais dans la CGT, il y a une réflexion qui s'est ouverte, et du coup, on voit des connexions qui se font et des interrogations qui se développent au sein même du syndicalisme pour dire, oui, comment faire davantage de place à l'expression directe au sein de nos mouvements.
En utilisant peut-être les réseaux sociaux au plus, parce que voilà. Ça, c'est une des innovations des Gilets jaunes, en tout cas, c'est une des utilisations qu'ils ont pu en faire de ces réseaux sociaux qui permettent de rendre visible un sentiment de colère, qui permettent aussi de mettre les propres mots des contestataires sur leur mouvement.
Voilà, j'allais dire que ce qui a manqué aux sans-culottes, c'est les réseaux sociaux par le fait, parce qu'à l'époque, évidemment, ça passait par la parole. Ce qu'on appelait démocratie directe, c'était des échanges de paroles. Il n'y avait pas d'intermédiaire.
On ne faisait pas à distance.
Il n'y avait pas, voilà. La, aujourd'hui, c'est une forme de démocratie directe qui est quand même assez indirecte, parce que des réseaux sociaux, ils n'existent que si vous avez une technologie. Facebook, Twitter, etc., etc. Mais en même temps, c'est toute la contradiction de la technologie. Toute l'histoire, moi j'insiste beaucoup dans mes travaux sur l'importance de l'histoire des communications. La communication, les révolutions qui se sont produites au cours du temps dans la sphère de la communication ont eu des effets extrêmement importants sur les luttes sociales, sur les capacités d'organiser des mouvements depuis l'imprimerie. Hein. On sait que le protestantisme, Luther, c'est lié aussi à la diffusion, au développement de l'imprimerie, c'est-à-dire de la chose écrite. Ensuite, la fin 19e, moi j'insiste beaucoup aussi là-dessus, la presse de masse. Quand l'ensemble des classes populaires sont immergées dans la communication écrite grâce aux journaux de masse, ça change aussi la nature même des luttes sociales. Le mouvement ouvrier moderne, enfin les syndicats, les partis sont la conséquence aussi de cette révolution-là. Et aujourd'hui, on vit une nouvelle révolution qui est celle, effectivement, à la fois des réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu aussi, qui toute la journée répètent les mêmes infos, etc. Donc tout ça a des impacts et c'est contradictoire. Je crois que le chercheur, il observe des contradictions. Il n'est pas là pour choisir son camp, il est là pour observer des enjeux de lutte, des contradictions, et les réseaux sociaux sont contradictoires. Ils peuvent amener les fake news, on en parle beaucoup, mais ils peuvent aussi amener des ressources que les acteurs peuvent utiliser, ça a été le cas, les Gilets jaunes ont été capables d'utiliser, j'allais dire aussi dans des conséquences qui ont été contradictoires, mais ces nouvelles technologies pour créer des liens et donc favoriser des formes de démocratie directe, concrétisant ainsi des idéaux qui existaient depuis longtemps.
Parlons de l'enjeu des mots qu'on pose sur un mouvement et sur une situation sociale. Alors là, c'est le sujet de la réforme des retraites. On a parlé aussi des Gilets jaunes, mais cet enjeu-là, il est primordial. C'est aussi ce que vous démontrez dans votre histoire populaire, Gérard Marielle.
Oui, c'est ça, l'enjeu des mots, c'est-à-dire que c'est là... Bon, moi, j'ai une double formation d'historien et de sociologue, c'est pour ça que je me définis comme socio-historien. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué dans les lectures que j'ai pu faire, ou le travail que j'ai pu faire avec un sociologue comme Pierre Bourdieu, c'est justement l'enjeu symbolique du langage, si vous voulez. Vous voyez, et Bourdieu disait à un moment, dans une intervention qu'il avait faite, qui a été publiée dans un petit livre, s'appelait « Question de sociologie », c'était une interpellation dans un débat qu'on lui avait faite par rapport au syndicalisme. Et quelqu'un lui demandait, mais pourquoi les syndicats toujours, à cette époque, c'est les années 70, hein, avant le développement du chômage, etc., c'était surtout des luttes autour du salaire. Et il dit, mais pourquoi les syndicats revendiquent toujours des augmentations de salaire? Eh bien, Bourdieu disait, oui, parce que quand vous dirigez un mouvement, quand vous êtes un syndicaliste, vous devez unifier les intérêts des gens. Or, il dit, la souffrance humaine, elle est extrêmement multiple, elle est très diversifiée. Donc, il faut trouver des mots communs. Donc, c'est nommé dans un langage avec des termes précis, la souffrance disparate des individus. Et ça, j'ai utilisé pas mal ça dans mes travaux, justement, pour montrer que même, par exemple, ce qu'on appelle les guerres dites de religion au XVIe siècle pouvaient s'interpréter avec ce type d'outils sociologiques, c'est-à-dire comment des termes qui viennent à l'époque de la religion, parce que la religion était omniprésente, pouvaient finalement désigner des formes de souffrance sociale qui touchaient à la fois aux questions économiques, mais aussi à des questions, on le disait tout à l'heure, de dignité, à des questions, vous voyez, de malaise, etc. Et je crois que, en tout cas, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était très net qu'on voyait des gens qui, dès qu'on leur donnait la parole, dans leur langage à eux, ils exprimaient une souffrance qui était multiforme.
Un peu comme « j'ai mal à ma foi » utilisé.
Voilà, à l'époque, au XVIe siècle, « j'ai mal à ma foi », eh bien, Bourdieu disait « j'ai mal au salaire », vous voyez, Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, exprimaient aussi dans des... Ça a été le RIC, par exemple. Même cette revendication, vous voyez, qu'on pouvait analyser dans des sens contradictoires, mais elle désignait quelque chose de beaucoup plus multiple, je dirais, mais qui se retrouvait dans un symbole ou dans un terme qui pouvait être commun, qui pouvait être partagé. Et ça, c'est tout le problème fondamental qu'on occulte souvent, nous qui appartenons... Nous, je parle de vous, de moi, de notre milieu social, on appartient à la petite, je dirais, classe privilégiée des, ce que j'appelle, moi, les professionnels de la parole publique. On est tellement habitués à parler publiquement, c'est-à-dire, vous voyez, à s'adresser à des auditeurs, à des spectateurs ou à des lecteurs, etc., qu'on ne se rend pas compte de ce processus, finalement, qui fait qu'on passe d'une parole privée, multiple, qui ne s'énonce pas forcément dans des termes savants ou abstraits, le travail qu'il faut faire pour aboutir à un langage qui est forcément simplifié, qui règne dans l'espace public.
Vous nous disiez il y a quelques instants, Gérard Noiriel, que les syndicats ont modifié probablement leur approche du mouvement contre la réforme des retraites suite au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que les médias ont fait de même? J'ai l'impression, je ne sais pas si vous faites la même analyse que moi ou si vous avez la même constatation, mais que les termes prise d'otage, les reportages un peu douteux en forme de micro-trottoir qu'on pouvait voir sur d'autres mouvements précédemment, on ne les retrouve plus vraiment cette fois-ci.
Oui, il y a aussi une évolution. Il y a aussi une évolution. Effectivement, c'est aussi ces luttes symboliques dont on parlait tout à l'heure. Elles ne concernent pas uniquement d'un côté les syndicalistes et de l'autre le pouvoir d'État. Il y a aussi tous les intermédiaires. Effectivement, c'est le cas pour les médias, c'est-à-dire les médias. D'abord, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est très générique. Donc il y a des composantes extrêmement différentes. Il y a aussi des luttes internes entre les médias, entre des médias qui sont dominants, c'est-à-dire qui touchent un vaste public, et puis des médias qui sont dominés. Et donc il y a aussi des différences d'appréciation. Mais malgré tout, on voit qu'il y a effectivement des interrogations qui se font. C'est pour ça que la démocratie, c'est favoriser l'expression au maximum, dans ses formes les plus diverses, dans des formes qui peuvent nous apparaître parfois comme répréhensibles, mais qui vont, du coup, impacter, je dirais, les intermédiaires culturels, ceux qui parlent à la place des autres la plupart du temps, et du coup qui vont les amener aussi à évoluer, à changer. Ce que vous disiez, c'est un bon exemple, en disant, on n'avait pas pensé à ça, ou là, on n'est pas tout à fait respectueux de l'opinion de telle ou telle composante, etc. Donc, il y a des luttes qui se mènent, mais qui ne bouleversent pas, malgré tout, les rapports de force, mais qui sont intéressantes dans la façon dont on rend compte d'un mouvement social.
Les relations de pouvoir, en tout cas, sont en train de changer. Vous écrivez dans votre histoire populaire que nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie du public, Gérard Noiriel. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors là, je me réfère aux travaux de Bernard Manin, la philosophie politique, qui, lui, a caractérisé une évolution, je dirais, quand il dit qu'on est passé de la démocratie de parti, c'est-à-dire où c'était les partis politiques qui jouaient le rôle majeur dans l'espace public et dans la construction des problèmes politiques, à une nouvelle phase qui est la démocratie du public, c'est-à-dire les partis existent encore, bien évidemment, mais ils sont beaucoup moins maîtres du jeu dans la construction des enjeux ou des problèmes qui sont mis au centre de l'actualité. Et ça, je crois que c'est vrai. Enfin, moi, j'ai utilisé ça, j'ai vu que ça fonctionnait très bien dans mes propres travaux. Et on voit donc des enjeux où, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en tête de l'agenda politique? Est-ce qu'on va mettre en tête les questions d'inégalité sociale ou l'affaire du voile islamique, par exemple? Vous voyez, on voit très bien que là, eh bien, c'est pas neutre. Hein. Il y a des enjeux de lutte entre des tendances politiques qui sont différentes et évidemment, selon qu'on va opter pour l'un ou pour l'autre, eh bien, on va aboutir à des débats, à des polémiques et donc à des formes de mobilisation qui vont être différentes.
La révolution des médias sociaux, la révolution des médias tout court d'ailleurs, et ce temps de la démocratie du public nous font passer dans une structuration relativement différente de l'espace public, Gérard Noriel.
Voilà, ben oui, c'est effectivement ce qu'on voit, pas rien qu'en France. Hein. Je crois que à partir de ce concept-là, qu'il faut évidemment toujours adapter. Enfin, moi, j'utilise toujours les concepts qui viennent des autres disciplines comme des outils hein, pour des recherches empiriques. Mais on voit bien, moi, je pense qu'il y a, c'est ce que je disais dans la conclusion de ce livre, c'est qu'on peut trouver des points communs entre l'élection d'Emmanuel Macron, de Trump, par exemple, de Boris Johnson, on pourrait dire maintenant, le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes, etc. À chaque fois, c'est des choses qui ont surpris. C'est quand même frappant. Hein. On disait, ben, Emmanuel Macron, d'où il vient? Il vient, ça rompait avec la tradition des candidats qui appartenaient à un parti, etc. Vous voyez, bon, Trump, tout le monde disait qu'il serait battu. Hein. Vous vous souvenez peut-être des analystes juste à la veille des élections américaines. Le Brexit, c'est pareil. Enfin, le mouvement des Gilets jaunes, personne n'avait prévu. Donc, on voit bien que là, on est dans une période de transformation où il y a des choses qui nous échappent encore parce qu'on est justement au cœur d'une révolution. Et je pense qu'effectivement, ce concept de démocratie du public, c'est-à-dire le rôle que de plus en plus important que jouent les grands médias pour, voilà... le rôle des réseaux sociaux aussi qui s'articulent à cela sont tout à fait essentiels pour structurer donc des enjeux d'actualité et faire émerger des formes de politique qui ne sont plus liées à des traditions comme c'était le cas où traditionnellement les ouvriers votaient communistes par exemple ou voilà les bourgeois votaient pour tel ou tel parti de droite etc. On voit bien qu'il y a un éclatement et ça rend d'ailleurs beaucoup plus difficile le rôle des sondeurs d'opinion.
Oui, parce qu'il y a aussi une volatilité
c'est un peu le supermarché des idées quoi. Donc selon les conjonctures, vous avez des stratégies aussi de populistes. Et c'est bien aussi pour ça que le populisme ressurgit aujourd'hui sous des formes nouvelles, en empruntant aussi finalement des arguments qui viennent du passé, mais utilisant effectivement les possibilités que donne cette démocratie du public.
Alors, ce qu'ont changé les Gilets jaunes, peut-être sur vous, Gérard Noriel, et vous l'écrivez dans votre postface, c'est la réédition au mois d'octobre de votre histoire populaire. Ce qu'elle a fait changer sur vous, cette histoire des Gilets jaunes, c'est la prise en compte, justement, dans le cadre de cette démocratie du public, des préoccupations environnementales. L'écologie, vous ne l'aviez peut-être pas vu venir hein, aussi clairement, et au centre... vraiment du débat et des enjeux en ce moment. Les Gilets jaunes, on a cru le comprendre, pas tout à fait au début, mais assez vite après l'évolution, les premières évolutions du mouvement.
Oui, c'est effectivement donc la première édition de cette histoire populaire est sortie 2 mois avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça explique aussi le succès de ce livre. C'est un peu prémonitoire par rapport à ce que je disais dans la conclusion où j'analysais le programme présidentiel d'Emmanuel Macron en montrant qu'il ignorait totalement les classes populaires. Donc finalement la majorité des Français
dans une grande tradition dominant, expliquez-vous.
Voilà une tradition libérale, je dirais, qui remonte au XVIIIe siècle. Enfin voilà. Donc j'ai fait énormément de discussions, de débats, et puis il y a eu toute cette lutte des Gilets jaunes. J'ai écrit d'ailleurs un petit bouquin, enfin un entretien avec Nicolas Truong du Monde sur les mouvements des Gilets jaunes. Et chemin faisant, effectivement, je me suis rendu compte, tout mouvement social vous éduque, quelle que soit la position que vous occupez dans la société. Donc moi, je ne me suis pas exclu de cette éducation-là. Et ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, il était parti au départ donc d'une lutte contre des taxes que certains voyaient d'un mauvais œil en disant ils sont pas écolos hein, puisqu'ils refusent les taxes. Mais ce que les Gilets jaunes ont montré, c'est l'inégalité qu'il y avait dans ce rapport à la taxation hein, pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Et du coup, je me suis dit, ah oui, tiens, ben ça, c'est un enjeu aussi des luttes sociales. C'est un enjeu de l'histoire populaire. Et effectivement, j'en avais pratiquement pas parlé dans mon histoire populaire. Du coup, voilà, j'ai fait cette postface juste un an après pour le premier anniversaire, en intégrant cette dimension, d'autant qu'il y a des historiens, de jeunes historiens, qui ont commencé à travailler sérieusement.
Voilà, et vous expliquez que cette dimension-là va structurer probablement le débat politique et le débat intellectuel dans les années qui viennent.
Alors, d'une part, je montre que c'est pas si nouveau que ça, que les luttes autour des questions écologiques, elles sont centrales. J'ai montré les contradictions dans le monde ouvrier, puisque quand vous êtes des ouvriers qui travaillaient dans les mines, etc., ils contribuaient à polluer la planète, mais c'était leur survie qui était liée à cela, donc ils ne pouvaient pas être dans une posture non plus complètement critique par rapport à tout cela.
Leur survie et leur identité.
Et leur identité de mineurs, de capacité d'affronter la matière, de souffrir au feu pour les sidérurgistes, etc. Donc j'analyse toutes ces luttes-là et je montre qu'effectivement aujourd'hui, eh bien, on voit le développement de ces luttes. Et bon, moi je suis pas spécialiste des questions climatiques, mais je crois les experts aussi, les savants dans ce domaine-là. Donc on voit que c'est un problème qui va peut-être donner une dimension concrète à cet universalisme dont on parlait tout à l'heure, qui a été pensé par des philosophes au départ, dans une vision finalement très théorique, très abstraite, assez égocentrique, au sens où c'était les Européens qui imposaient leur définition de l'universalisme tout en cautionnant la colonisation, etc. Donc il y a toutes ces dimensions de la critique qu'on peut faire aujourd'hui d'universalisme. Mais là, on est confronté à un enjeu concret, parce que le réchauffement climatique, il affecte tous les pays, les frontières de l'État,
toutes les classes sociales.
Voilà, toutes les classes sociales, ce qui n'empêche que les inégalités sociales ne disparaissent pas pour autant. Parce que les capacités que les individus vont avoir pour lutter contre le réchauffement climatique, elles sont tout à fait différentes selon le niveau de vie du pays, le niveau de vie des individus, etc. Donc ça ne veut pas dire que la lutte des classes va disparaître, mais cette dimension climatique va avoir une importance plus grande, je pense, c'est de toute évidence, et peut-être générer des capacités de coordination des luttes, que c'est le grand échec du mouvement ouvrier, finalement, ça. Regardez Marx, Engels, 1848, le manifeste du Parti communiste se termine par cette phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et au total, eh bien, c'est le capitalisme, les capitalistes qui se sont unis pour créer la mondialisation du capital. Donc aujourd'hui, les luttes, peut-être, peuvent se coordonner davantage au niveau international autour de ces enjeux, et d'autres enjeux, mais celui-là, tout particulièrement. Et en connexion avec la question sociale, ce qui me frappe aussi, c'est l'évolution. C'est-à-dire, l'écologie, on pouvait être un peu, quand on était sociologue, un peu dans une perspective de suspicion, de critique par rapport à un mouvement qui isolait la question climatique des enjeux sociaux. Mais aujourd'hui, on voit l'évolution qui se fait. C'est-à-dire, beaucoup de militants de la cause écologique voient bien qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne fait pas le lien avec la lutte contre les inégalités sociales.
C'est un des enjeux de l'avenir, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Gérard Noiriel, d'être venu dans les matins de France Culture. Historien et directeur d'études à l'EHESS. Je rappelle votre Histoire populaire de la France, publiée chez Agone dans une deuxième édition, donc, fin 2019, avec une nouvelle postface qui prend en compte le mouvement des Gilets jaunes. Merci à vous. Il est 8h51 sur France Culture.